Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, de tout nouveaux sujets jamais évoqués. La sexualité après une grossesse avec un jeune enfant de 8 mois, la synesthésie graphème couleur, la photo de nu, le cancer des testicules. Bref, un parcours dense et riche pour ce jeune papa normand de 28 ans, Julien, qui m'a fait le grand plaisir de parler à mon micro. Je vous invite à consulter les trigger warnings dans la note qui accompagne le podcast. Il y a des sujets qui peuvent être difficiles à écouter pour les plus sensibles d'entre vous. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et vous invite, pendant que j'ai votre attention, à laisser un avis positif et des étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast grandit et se fait connaître. Également, le livre « On the Verge, la sexualité masculine » sort le 14 avril prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est un projet qui sort aux éditions Robert Laffont. Ça a été un vrai challenge de l'écrire et j'espère qu'il vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à l'écrire. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Julien, 28 ans, qui est en Normandie sous la neige. Ça va, Julien ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va. On a parlé un peu météo avant. Ouais. Nous sommes au niveau des seins glaces, les seins des glaces. Donc c'est la période normalement qui est en mai, mais là c'est un petit peu plus tôt cette année, c'est en mars.
Ouais, enfin, on passe quand même du sable du Sahara à la neige, hein, je veux pas dire.
Tout va bien, le climat au top,
ça
le
part en cacahuète.
N'existe pas, nous sommes...
Mais non.
Ouais, mais non. Julien, je vais te poser la toute première question que je pose à mes invités et à laquelle tu as dû réfléchir. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Eh ben, c'est marrant, c'était en primaire. J'étais inscrit à un moment dans un club de trampoline et j'étais amoureuse d'une petite fille, machin, ça se passait bien. Et il y avait une certaine Megan qui m'aimait follement aussi. Sauf que
t'étais
moi,
quoi,
non.
T'étais quoi? T'étais en primaire, genre...
C'était en CP, hein. C'était,
okay.
Voilà. Sauf que bah, cette fille était folle de moi, mais c'était pas réciproque. Mais elle était extrêmement collante et elle a même été jusqu'à s'inscrire dans le même club que moi pour le coup. Et elle me suivait partout, c'est-à-dire que même aux toilettes, elle m'a suivi. Et c'est limite si elle m'a pas défoncé, c'est limite si elle a pas défoncé la porte, j'étais parti me planquer dans les toilettes. Hein.
C'est un peu du voilà. Harcèlement à ce niveau-là.
C'est un petit peu, légèrement. Et elle a défoncé la porte, machin, mais je dis non, j'ai pas envie de faire pipi. Et genre, elle m'a attrapé le froc, elle l'a baissé, elle fait « Oui, mais il faut que tu fasses comme ça. » Et puis elle m'a attrapé le...
Ton petit zizi.
Elle m'a attrapé la bite et ouais, oui, voilà, oui. C'est vrai que ça s'apparentait plus à un petit zizi qu'autre chose à l'époque, oui. et voilà, c'est juste que ça m'a marqué en fait parce que c'était drôle en fait. Enfin...
Alors c'est drôle, mais d'où l'importance quand même d'inculquer...
Avec du recul, c'est drôle.
C'est ça, mais inculquer le consentement dès le plus jeune âge aux enfants.
Donc ne défoncez pas les portes et ne touchez pas les kikis des jeunes enfants sans leurs autorisations.
Exactement. Ok, comment ça se passe à la maison ? Est-ce qu'on parle de sexualité librement chez toi ?
Oh oui.
Okay.
Oh oui. On est très très libre avec ma femme là-dessus, donc il y a
alors,
aucun problème.
Alors je te parlais pas de à ta maison, je te parlais de à la maison quand tu.
À la maison. Ah.
Chez tes parents.
Chez mes parents. Oui. Bah ma mère très très ouverte là-dessus. Pareil. Il y avait pas de tabou en fait. On pouvait parler sexualité comme on voulait. Et mon père un petit peu moins, mais en même temps, voilà, c'était un peu plus un peu plus conflictuel avec mon père, dans le sens où il était 6 mois en mer et 6 mois à la maison, donc voilà, j'ai à moitié grandi sans mon père, donc j'allais pas naturellement me confier à lui, si tu veux.
Il était marin ?
Oui, dans l'armée, commando marine pour être précis.
Donc militaire en plus, donc.
Ouais, voilà. Donc.
Rapport avec la masculinité qui est quand même.
Tu vois un peu le genre, quoi.
Ok. Je vois. Comment ça se passe ton adolescence, Julien ?
Adolescence, comme toujours, très 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 renfermé, donc pas très très ouvert socialement. Et j'ai grandi à l'écart. J'ai grandi avec peu de potes, mais avec des bons potes.
Ah, c'est pas mal.
Dans
ça.
L'ensemble.
La qualité versus la quantité, quoi.
Voilà. Puis ça, c'est toujours actuellement, hein, de toute façon. Et les filles absentes.
toute l'adolescence.
J'ai eu quelques aventures, mais voilà, c'était des trucs, c'était plus de la découverte et des petites amourettes qu'autre chose, quoi. Mais c'est marrant parce que le peu d'amourettes que j'ai eu, on va dire, ça m'a presque dégoûté, en fait, dans le sens où il y avait une pression sociétale, en fait. Je me revois en sixième où le Saint Graal, j'avais réussi à sortir avec une fille, c'était merveilleux.
À quel âge exactement ?
Oh putain, je sais plus. C'était à 13 ans, 14 ans, je crois. Et donc, génial, parce que ça faisait 6 mois en plus que je lui courais après, etc. Donc, tant mieux. Donc, au bout de 6 mois, j'arrive à sortir avec. Génial. Trop content. Et dans le bus, il y avait une troisième qui un jour m'a fait la réflexion, mais limite en me gueulant dessus. Non, mais tu te rends pas compte, t'as descendu du bus et tu l'embrasses même pas. J'en ressens pas le besoin, en fait. Ouais, mais c'est pas normal, machin. Mais c'était violent, en fait. Et c'est juste que c'était pas le moment. Je me sentais pas prêt, si tu veux, à faire ça. Mais je l'ai vécu limite comme une agression, et c'est là où je me suis dit, putain, mais est-ce que c'est normal, en fait ?
Qu'est-ce qui est normal ?
Mais la pression sociétale, déjà, de base, voilà, tu vois, elle était déjà bien là, quoi. Donc, et ça m'a poursuivi après, ou dans mes autres aventures, pareil, le premier baiser langoureux. J'avais 16 ans, et ça m'a extrêmement déplu. Mais j'ai rompu, mais dans l'heure qui venait, quoi.
Parce que t'avais roulé une pelle à une fille?
Oui, mais pareil, elle était adorable, vraiment. C'était vraiment une super nana, elle était adorable. Mais je sais pas, ça s'est fait peut-être trop vite, trop fort. Ça allait pas. c'était pas le moment, ça allait pas à mon rythme. J'ai rompu peut-être une heure après, je crois, mais la pauvre, elle a pas compris, du coup.
J'imagine. Comment ça se passe, la puberté chez toi? Est-ce que, avec tes copains, donc, qualitatifs, vous échangez, vous parlez porno, parce que tu fais partie de cette génération où, Internet est à la maison, tout de suite, quoi. Enfin, t'as pas galéré.
Ah bah, j'ai grandi avec, hein, quand même. Je suis encore fier de ça. je suis encore fier d'être de la génération catalogue La Redoute et vidéo en 144p en infrarouge sur les premiers Nokia clapet. Ouais.
Attends, 28 ans, t'étais encore. Ah, ok, d'accord.
Donc, si. J'ai connu le Windows 95 des familles.
le modem et tout. Et donc.
Ouais.
Du coup, comment ça se passe? T'as accès à ça, à la maison? Enfin, t'as accès avec tes potes à tout ça?
Ah oui. Je dirais que la découverte en tant que telle, que ce soit mes potes ou moi, on l'a fait individuellement, mais on se faisait un débriefing d'expérience un peu à l'école, de ce qu'on avait maté, de ce qu'on avait fait, devant, etc. Donc non, on était vachement libre là-dessus aussi.
Et la masturbation, c'est quelque chose qui arrive dans ta vie, pareil, au collège, dans ces années-là?
Même en primaire, ça, je dirais. On a commencé à expérimenter en primaire et on en parlait. Et y a pas de gêne, y a pas de honte, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Philippe, si tu écoutes ce podcast, éteins-le. Je t'aime, mon lapin, mais tu vas me détester pour ce que je vais dire là. C'est moi qui lui ai fait découvrir la masturbation parce que pendant quelques temps, donc il connaissait pas, il était un peu prudent, voilà. Il découvrait et voilà. Et donc, on s'est masturbé ensemble pendant quelques temps et c'était la découverte. Mais il n'y avait même pas de question d'homosexualité ni quoi que ce soit, en fait. Mm-hmm. C'était juste de la découverte et on le faisait entre potes parce que, on avait un retour d'expérience, quoi. C'était une découverte.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là avec Philippe?
10 ans, 11 ans. Un truc comme ça.
C'est sur des corps prépubères.
Ouais, voilà, c'était ça, c'était pas... Oui.
Ok, bon, bah écoute, filou, hein, si tu nous écoutes, bravo. Donc tu passes ce collège, tu as ce baiser langoureux à 16 ans qui te calme un peu et qui
Ouais,
réfrène tes ardeurs.
ouais.
Et après, comment se passe l'éveil de ta sexualité?
On a oublié un petit passage avant, vers les 13 ans. Donc là, pour le coup, question de confidentialité, je ne dirai pas qui c'est. Un attouchement sexuel à 13 ans. Là, c'est beaucoup moins fun pour le coup.
Ah merde.
Donc, pareil, là, la découverte du corps était tout de suite, paf. C'était dérangeant sur le coup, et je pense qu'en plus je grandissais, plus je me rendais compte que c'était pas normal ce qui s'était passé en fait. Non,
C'est un adulte?
non, 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 il avait 2 ans plus que moi.
Ouais, donc c'était un jeune homme qui était lui pour le coup
Oui, oui.
actif sexuellement et qui
Oui.
a eu un attouchement sur toi.
Oui. Même plusieurs fois.
D'accord, mais c'est dans un cadre scolaire?
Non, non. Je
D'accord.
n'irai pas plus loin,
Tu
mais non.
ne comprends pas, mais ok, d'accord.
C'est une question de confidentialité,
Je
j'ai des
comprends.
raisons derrière parce qu'il a un poste, voilà.
Ok. Donc sans, on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais
Non.
à ce moment-là, tu comprends ce qui se passe, mais tu lui prends pas la mesure de la gravité.
Ouais, c'est, enfin, je sens que je suis pas complètement en accord non plus. Il y a les sensations physiques
Ouais.
qui sont plus ou moins plaisantes. Parce qu'il y a quand même la question de consentement, voilà, elle n'était pas là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est passé, il est passé au stade au-dessus. Donc là, c'était beaucoup moins drôle et beaucoup moins plaisant physiquement. Et ouais, et plus je grandissais après, et plus je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas normal ce qui s'était passé.
Et t'as eu l'occasion d'en parler avec de confronter ton agresseur?
Non, 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 jamais, jamais. Et je le ferai pas.
Pourquoi tu le feras pas?
Non,
Parce que c'est un gars qui a ton âge en fait, enfin aujourd'hui qui a 30 ans, donc
ouais, mais non, je non, parce que non, ce serait pas constructif déjà, parce que ça remonte. Et puis non, voilà, moi, je suis passé à autre chose, mais
D'accord.
non. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à, j'ai attendu mes 18 ans avant d'en parler à mes parents, par exemple.
T'avais besoin de quoi? T'avais besoin de te sentir
J'avais besoin de
majeur?
vider mon sac et de...
Ouais.
Ouais, bon, je sais pas. Puis les 18 ans, c'était symbolique, donc...
Je comprends. Donc, tu rentres dans ta sexualité avec
Avec ce bagage-là, voilà.
ce
Donc
bagage-là, donc qui,
tu commences
effectivement.
à comprendre... Tu vas un peu plus comprendre après
Ok. Mais alors, du
la
coup,
suite.
quand t'as cet échange avec ce garçon, parce qu'on va pas dire cet homme, parce que t'avais
Oui.
13, 14 ans, il en avait 15, 16, quoi.
Ouais, un
Donc,
truc comme ça, oui.
c'est que tu t'orientes vers les garçons à ce moment-là?
Non, du tout.
Non, d'accord. C'est lui qui est
Ah
acteur de
oui,
ce. D'accord.
voilà, c'est ça, complètement.
Ok. J'avais besoin de cette petite précision.
Ouais,
Ok, donc
ouais, ouais,
tu rentres. Donc, tu es au lycée, tu commences peut-être à flirter avec des jeunes filles. Donc, comment ça se passe?
ouais.
Ça
Alors,
te bloque? Ça te. Tu fais un
non, non, non,
déni?
j'ai toujours cette envie de découverte parce que je pense que pour me protéger, j'ai enterré ça au plus profond de moi. Non, à 16 ans est venu le temps, bon, des rires et des chants. Certains ont la référence. Non, et surtout venu le temps de la première fois avec Élodie. J'en garde un. Alors, je garde un bon souvenir de la fille en tant que telle. Par contre, les pratiques beaucoup moins. Mais ouais, une fille qui était rigolote. On s'entendait bien, qui avait un brin déjanté et ça m'allait bien.
C'était une histoire d'amour ou c'était un flirt ou c'était un one
Moi,
shot?
j'étais amoureux, je pensais que c'était réciproque. Tu vas comprendre très vite que non.
Ok.
Mais ouais, donc première fois, bah voilà, donc t'y vas, la trouille au ventre, tu te dis bon, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a fait ça dans un parc, au bord du lac. C'était très très poétique. C'était en été, etc. Donc voilà,
la
très
petite,
très, très
la
bien.
La petite brise, très sympa.
Voilà, voilà. Je recommande à tout le monde d'ailleurs de le faire en extérieur. C'est une très bonne expérience.
Alors pour une première fois, vous avez le droit aussi de faire ça de façon conventionnelle, mais
oui aussi aussi.
L'extérieur c'est sympa.
Et je pense que je vais rien apprendre. Voilà, que ce soit à toi ou à beaucoup de mecs, mais bon, la première fois, tu dures jamais très longtemps.
Et oui, c'est vrai que c'est rare que ça soit un marathon.
Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Mais bah déjà le stress et avec les bagages en plus que j'avais, autant te dire que j'avais les pétoches comme pas possible. Ouais. Donc oui, là, je pense que si ça s'est joué en une trentaine de secondes, c'était bien quoi.
Tu parles juste de la pénétration du coup parce que. Vous avez eu le loisir de vous embrasser, de vous toucher avant?
Non, alors, c'est après où j'ai appris que c'était une nymphomane, donc autant dire que elle, l'expérience, elle l'avait. Elle a pas perdu de temps. Hein. Tu vois, c'était pas comme la voiture où tu mets la voiture après chauffer le matin. Non, c'est elle direct, bam.
D'accord.
Direct, elle enclenche la troisième, elle tape dedans. Hein, donc bon, voilà, okay. C'était un peu le truc. Donc bon, 30 secondes après, tu te rhabilles.
Donc grosso modo, elle est montée sur toi, bam. C'est
et
parti,
puis voilà. Et puis on repart. Donc on repart après coup. Donc toi, t'es tout content, tu vois. Tu dis, ouais, quand même, c'est vrai que ça fait du bien. C'est des nouvelles sensations. Et puis avec elle, en plus, elle est magnifique. Qu'est-ce que j'ai déchanté? Parce que dès le lendemain, en fait, elle avait balancé dans tout le lycée que ça avait duré 30 secondes, que machin. Donc elle avait tout balancé dans les moindres détails dans tout le lycée. Donc tu te tapes une sale réputation.
Cool.
Pas cool du tout.
C'était quoi ta réputation?
Je suis passé pour l'éjaculateur précoce de service, pour le mauvais coup de service. Donc déjà autant te dire que je j'attirais pas nécessairement les femmes, mais alors encore moins pour le coup.
qu'est-ce qu'ils sont durs les adolescents.
Oui, surtout qu'il y a il n'y a pas de performance à avoir en soi. Je suis sûr que si ma femme m'écoute à côté, elle doit être en train de rigoler parce que je me mets toujours une pression indirectement là-dessus. Mais non, mais les mecs, ne vous mettez pas la pression en fait. C'est le plaisir et le jeu qui compte.
Exactement. L'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas une obligation.
C'est ça. Et le consentement.
Bien sûr, la base. ok. Donc,
et donc voilà.
Assez déceptif.
Oui. Oui, puis elle m'a rendu cocu avec trois de mes potes dans les deux semaines qui venaient, donc et puis
parce
en fait
que, du
on
coup,
a vécu.
Vous sortiez ensemble.
Oui, ah oui,
d'accord.
Oui. Et en fait c'était, j'allais dire un triangle amoureux, mais non, du coup c'était un carré amoureux.
Ouais.
Et c'était, voilà, ouais. Et c'était chaud. C'était chaud. Mais avec du recul, c'était cocasse.
Faut le voir
je préfère
ça.
Le prendre avec le rire, ouais.
Là, t'es au lycée.
Ouais.
Et comment va se dérouler le reste de tes relations?
Par intermittence. J'ai beaucoup essayé les sites de rencontres à cette période-là.
Ouais, c'était quoi à cette époque-là?
Alors, moi, j'avais testé... Il y en avait un à la mode, c'était Badou.
Ah, Badou, ouais.
Voilà, j'ai beaucoup de potes qui se sont maqués sur Badou et qui sont toujours ensemble d'ailleurs. Donc j'avais essayé sans succès. Mythique, j'ai très vite abandonné. Pour moi, c'était vraiment ouais. Ben on va dire que la tranche d'âge c'est clairement pas la même
âgée,
quoi.
Ouais,
voilà, c'est ça. Et après, je me suis essayé à adopter un mec.
Ouais.
Et là, c'était beaucoup mieux. Et là, j'ai eu quelques dates. J'en ai pas eu des masses, mais j'ai dû en avoir peut-être 5 relations dessus.
Et pourquoi les sites de rencontres, c'était plus facile pour toi?
C'est plus facile, ouais. Je suis quelqu'un de très timide de base, et avec tout ce que j'ai vécu, en fait, j'avais plus franchement confiance de base. Voilà. Déjà aux êtres humains en temps normal et donc ouais on va dire qu'avoir cette barrière numérique c'était un peu plus facile.
Et pourquoi ça, toi, ça te permet quoi, de mettre un climat de confiance, d'appréhender un peu plus la personne?
Ouais, et puis c'est plus pour la prise de contact et dans l'échange, ça me permet vraiment d'y aller à mon rythme en fait.
Je comprends. Et donc, tu commences par ces sites de rencontres. Donc là, t'es quoi? T'es jeune étudiant?
Oui. Bah là, j'étais en CAP à ce moment-là.
Et tu rencontres des femmes. Comment ta sexualité se met en place à ce moment-là?
Oui, alors on sent. Oui, j'en rencontre certaines, mm-hmm. bon, qui sont dans le milieu du cinéma, etc. Bon, y en a certaines avec qui je suis juste devenu ami, et puis d'autres, ouais, où on a eu des relations à distance, ou après plus des relations physiques, vraiment pures et dures.
Tu te rappelles de ta première relation après Elodie, parce que pour le coup, t'avais pas eu une expérience fascinante. Donc, ouais. En tout cas, c'était très rapide. Quelle est la jeune femme d'après avec qui tu as commencé à découvrir un peu les plaisirs du sexe?
Le plaisir charnel.
Tout à fait.
Elle s'appelle Pauline, du coup.
Ok.
Voilà. Et donc elle, pareil, elle avait l'habitude aussi. Hein, je pense qu'elle était nymphomane aussi. Je crois que les attire.
Mais tu sais que la nymphomanie, c'est une vraie maladie. Donc, c'est parce que c'est une souffrance hein, pour les femmes qui sont nymphomanes.
Alors, je sais pas si elles en souffrent, mais il y a une addiction qui est là, en tout cas. Ouais, ça c'est sûr.
Parce que la nymphomanie, le vrai nom, c'est l'hypersexualité. Donc, c'est vraiment D'accord. des gens qui ont un appétit sexuel démesuré, et, mm-hmm. mais qui en souffrent, parce que c'est vraiment une addiction comme
l'alcoolisme ou le tabagisme. Ou... Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Après, une femme nymphomane, elles ont des besoins indispensables tu vois, de sexe et qui ont c'est un vrai trouble. Donc, c'est parce qu'elles avaient juste très envie d'avoir du sexe, ou tu sentais vraiment que chez elles, c'était une pathologie?
Ah non, mais même si c'était pas avec moi, c'était avec d'autres mecs, parce que l'occasion se présentait, qu'il fallait que ce soit maintenant, et voilà, quoi.
D'accord.
Je suis pas sexologue, hein, donc je me gourre peut-être en disant ça, du coup.
C'était peut-être aussi ta perception à toi de leur désir
oui, c'est ça.
Trop intense. Et d'après ce que tu m'as dit avant, t'as quelqu'un qui a besoin d'avoir de prendre le temps, d'être assuré.
Ouais,
peut-être
ouais,
aussi c'était une interprétation.
Oui.
Mais bon, on va partir.
Ouais, je pense.
Donc du coup, tu as donc Pauline qui effectivement elle aussi sait exactement ce qu'elle veut.
Oui.
Donc vous avez quoi, une relation?
Oui, relation de 4 mois pour le coup. Et okay. on a plus qu'expérimenté.
C'est-à-dire?
Oh bah que ce soit dans la voiture, à l'hôtel, en extérieur.
Ça c'est
j'en reviens bien. Toujours là, mais ouais, mais j'aime bien.
Okay. Et donc avec Pauline, donc tu découvres le sexe. Donc là, tu commences à toi un peu plus prendre tes aises, à comprendre un peu.
Ouais,
ce qui te
ouais,
plaît.
Ouais. De manière un peu plus libérée, ouais. Alors peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément dans les pratiques en soi, parce que elle était assez vanille. Je crois qu'on dit ça chez toi.
chez moi ailleurs, mais oui, on dit ça. Elle était un peu tradie, quoi.
Ouais,
conventionnelle.
Ouais, ouais. Elle était assez vanille dans l'âme, donc c'était quelque chose de très très traditionnel. Mais oui, on a expérimenté plus des lieux que des pratiques en tant que telles. Ouais.
Ok.
Et plusieurs fois, oui, et c'était très plaisant. Et pour le coup, oui, ça m'a presque fait passer la période Elodie. Bon, même s'il y avait toujours cette pression qui restait là, voilà, t'es toujours en train de te dire cette fois il faut que je dure, parce que sinon tu vas repasser pour un con, puis t'aurais pas évolué, enfin tu vois, c'est ça. Et tu te répètes ça en boucle, en fait.
Ouais, je comprends. Bah c'est ça, c'est là où tu te mets la pression, et c'est le pire, hein.
Et oui, non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que ça devient un automatisme, en fait, à force. Parce que t'as tellement peur que, voilà.
Ouais, bien sûr, mais c'est ça qui fait qu'après, t'as des troubles et que c'est compliqué et tu rentres dans un cercle vicieux. Ok, donc tu expérimentes avec Pauline et comment les choses évoluent dans ta sexualité? Comment toi, tu commences à prendre en main ta propre sexualité, ton désir, etc.?
Avec elle ou après?
Comme tu le sens.
je dirais qu'avec elle, il y a un moment où j'en avais pas assez. Il fallait que j'expérimente d'autres trucs.
T'arrives aux limites, quoi.
Ouais. Et c'était pas son délire.
C'est-à-dire?
Bon, et puis parce que j'avais envie de tester aussi un petit peu tout ce qui était BDSM, etc. Mm-hmm. Et elle, c'était pas du tout son truc. Elle, c'est vulgairement parlant, c'était elle a s'allongé et a fait l'étoile de mer. Donc voilà, c'était quelque chose de très très simple. Donc bon, ça allait bien à un moment, mais oui. Mais j'avais envie de tester d'autres choses. Et je pense que ce qui a été déterminant, c'est quand elle m'a rendu cocu et j'ai dit bon, allez, on passe à autre chose, dégage. Tu m'as pris pour un con, hop. Et puis voilà, et j'ai repris ma route et j'ai rencontré d'autres femmes derrière, donc voilà. Ouais.
Avec qui t'as pu expérimenter un peu de BDSM ?
Ma femme pour le coup.
Ta femme aujourd'hui. Donc,
ma femme aujourd'hui.
T'as quelques partenaires, mais rien, enfin en tout cas pas des grandes histoires.
Non, c'est ça.
Ok, et tu rencontres ta femme, donc tu m'as dit que ça fait 7 ans que vous étiez ensemble, donc t'as 21 ans quand tu la rencontres.
Oui.
Vous rencontrez dans le cadre professionnel ?
Sur Adopte un mec. Ça devrait être sponsor, là.
J'avoue, carrément. Et comment ça se passe, du coup, c'est un coup de foot, ça se prend dans le temps, comment ça se...
On s'est lâché des parpaings au début. Je te cache pas qu'on aime bien écrire, on est très bavard, donc on s'est lâché
d'accord.
des...
Moi, j'étais premier degré, hein. Genre, vous êtes envoyé des vrais parpaings.
Non.
Quelle est cette parade nuptiale que je ne connais pas, d'accord.
Petite anecdote à ce sujet, mon oncle en classe de neige au collège draguait comme ça, c'est-à-dire qu'il balançait des galets sur la tête des filles.
Ah oui, bah oui.
C'est une méthode un peu préhistorique, mais
okay. Bon, bah, pourquoi pas.
Okay, ne le faites pas.
Non, ne le faites pas chez vous. Donc vous envoyez des lettres, vous écrivez énormément.
Ouais, des bons gros pavés par mot doux, parce que ça s'appelle comme ça sur Adopt. Et puis un jour, voilà, j'ai dit, il faudrait qu'on se rencontre, donc un lieu commence, j'ai dit, tiens, on pourrait se retrouver au doc à Rouen, s'il y a des Rouennais qui écoutent ce podcast. Elle voulait venir avec ses potes par mesure de sécurité. Je dis, écoute, ça fait quand même 3 mois qu'on se parle maintenant. Tu fais comme tu veux, mais moi, c'est juste toi, en fait, que j'aimerais rencontrer. Elle a sauté le pas, elle a pris son courage à deux mains, et hop, donc on s'est rencontrés. C'est marrant parce que on s'est vu, on savait pas si on devait s'embrasser ou si on devait si on devait se faire la bise ou quoi que ce soit. Donc on n'a rien fait du coup. Dans le doute, on a éliminé toute possibilité. On a été voir The Hobbit. Donc c'était la bataille des 5 armées. On a beaucoup discuté. Je l'ai allègrement chambré. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien chambrer, donc voilà. Bon, vu qu'elle est plus petite que moi, bon, j'ai eu tendance à dire que c'était un nain et que j'étais un elfe. Enfin voilà, c'était que des trucs comme ça.
Des petits clins d'œil de fan, quoi.
Oui. Puis pour un fan du Seigneur des Anneaux de base, oui. Donc voilà, on sort direction la Fnac de Rouen sous une pluie torrentielle parce qu'évidemment on est en Normandie.
Bien sûr.
Voilà, Fnac, métro derrière, et le métro a son importance parce qu'on descend les marches, j'arrive en bas, elle est 3 marches plus haut, et je sais toujours pas pourquoi, et même elle, j'ai beau lui reposer la question au moins 5 fois par an, elle ne me donne pas la réponse parce qu'elle ne la connaît pas, elle m'a sauté dessus, mais littéralement, elle a eu un coup de foudre, je pense, ou une petite voix, ou une intuition, mais genre elle m'a sauté dessus, et... Okay. Re-baiser langoureux.
Ah, et là, tu l'as pas quitté.
Et là, je l'ai pas quitté. Spoiler. Ah bon. je l'ai pas quitté et c'était très agréable et la tête qui tourne et compagnie. Donc, voilà. Tout le monde, qui s'est retourné, sur le quai, en train d'applaudir.
Oh,
c'était drôle.
Oh,
ouais, ouais, c'est ça.
D'accord. Donc là, voilà. Vous commencez votre relation et donc, ça va faire 7 ans que vous êtes ensemble.
C'est ça.
Tu me le disais, là, vous êtes mariés récemment.
Oui, j'étais sa première fois.
D'accord.
Donc, très, 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 très patient. Pareil, j'ai attendu 6 mois, je crois, quand même.
Quand même, j'aime bien, quand même.
Non, mais parce qu'il y a beaucoup de potes qui m'ont dit « Ah, j'aurais jamais pu attendre aussi longtemps. » Bah, mais tu verras, quand tu tomberas vraiment amoureux, tu attendras.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est pas parce que vous avez... Enfin, il n'y a pas de sexualité.
C'est pas parce qu'il n'y a pas de sexe qui... Non, du tout, c'est ça. Non, parce qu'il y avait quand même... Ça n'empêchait pas qu'il y avait quand même des caresses ou les trucs comme ça qui étaient excitantes. Hein. Oui, donc, on a trouvé d'autres sources d'excitation et une sexualité différente, du coup.
Vous habitez ensemble au bout de combien de temps ?
Au bout de trois ans, je dirais, oui. Okay. Oui, c'est ça. Au bout,
et ouais. Donc, comment commence votre sexualité ? Et que tu parlais de BDSM, donc comment ça... Ça, c'est quelque chose qui rentre dans votre discussion assez rapidement, ou c'est toi qui...
Ouais, non, on a commencé de manière très, très classique. Et puis, petit à petit, J'ai introduit une petite fessée ou un truc comme ça.
Et donc toi, t'es en domination ?
J'ai essayé, histoire de prendre la température, histoire de voir si ça passait ou pas déjà.
Oui, c'est déjà pas mal.
Voilà, parce que sinon, j'avais pas envie d'y aller trop fort et d'en parler direct et que ça la bloque. Je me suis dit, bon, j'ai envoyé les tout doux. C'est passé, et puis au fur et à mesure, on fait un rapport, deux rapports, trois rapports, comme ça. Et puis, on en parle au fur et à mesure. On a essayé très tôt d'instaurer une communication dans le couple, dont la sexualité. Et ouais, et on en est venu très, très vite à là, justement, que... Elle aime bien être soumise, et moi aussi, bizarrement. Donc, en fait, on switch. C'est ça qui est
d'accord.
Bien, c'est qu'il y a la première partie du rapport où je suis dominant, et hop, et puis on switch juste après, en fait.
D'accord. Donc
s'est rendu compte que ce qui nous plaît, c'est vraiment le lâcher prise, en fait, parce qu'on, que soit elle comme moi, en fait, on est vraiment dans le contrôle, en fait, mais dans le contrôle de nous-mêmes.
Dans la vie de tous les jours.
Ouais. Ah ouais. Mais c'est oui.
Ok. Et donc le fait de
il faut
lâcher
que tout soit carré, etc. Et le sexe, ouais, c'est peut-être le seul truc où on arrive à déconnecter et où...
Vous devez être... en ce moment, ça va être compliqué parce que ce que tu me disais, vous êtes parent d'un petit garçon de 8 mois. Ça doit vous changer un peu la vie sur le contrôle et...
C'est-à-dire que tu planifies un petit peu plus. T'es en train de te dire, attends, là, on va rentrer à telle heure, il va avoir le biberon, c'est bon, on va avoir 2 heures pour faire ça.
quand t'es très carré, rigoureux avec un enfant, ça peut être... c'est incroyable.
Ça chamboule tout, hein. Oui. Ouais. Alors, pour le coup, on peut être très très carré dans la vie de tous les jours, enfin dans notre organisation personnelle, hein, je parle peut-être pas forcément dans le couple, hein, mais dans notre organisation personnelle, mais pour le coup, en ce qui concerne le sexe, on essaye vraiment de pas trop se cadrer, et puis s'il y en a un qui a envie, il va chauffer l'autre, et puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, on retombe plus tard, tu vois. Mais
comment ça se passe, la libido, entre vous? C'est kiff-kiff, c'est plus toi, c'est plus elle?
Non, c'est plus elle, pour le coup. Mais ça a toujours été.
D'accord. Donc,
ouais, plus le temps passe et plus je commence à me lâcher. Donc,
Ça veut dire quoi que tu commences à te lâcher?
Je commence à me lâcher dans le sens où... Il y a avant où j'osais pas trop aborder le truc, de peur de me faire rembarrer. C'est-à-dire que maintenant, j'y vais franco, quoi. C'est-à-dire que quand ta boss, depuis 4 heures, qu'elle a pas fait de pause, tu vas prendre un malin plaisir à glisser la main, à dégrafer le soutien-gorge, ou à des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est
et
le jeu, en fait.
Et 7 ans après, vous avez toujours autant de libido et de plaisir à faire l'amour l'un avec l'autre.
Ah oui, parce qu'en fait, on fait vraiment passer ça sous forme de jeu, en fait. C'est-à-dire que dernièrement, on a pris... Donc, on a plus les poutres qu'on avait dans l'ancien appart, parce qu'avant, on avait des poutres d'un vieux studio, voilà, c'est ça. Donc, pour le BDSM, c'était très pratique.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du BDSM en Normandie, sachez-le.
Ouais. Je sais. Et donc là, on les a pu, pour le coup, on a expérimenté avec mon fauteuil de bureau, par exemple.
D'accord.
Voilà, donc on essaie toujours d'expérimenter des trucs. On a eu un petit... On a un petit jeu, c'est de baptiser l'appart juste après les visites. Okay. Tu vois, c'est ça, c'est qu'on essaye vraiment de...
Et tu sens qu'en sept ans, pas de lassitude et vous arrivez à vous renouveler.
C'est-à-dire que pas de lassitude. Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a 2-3 semaines que dans les pratiques ça commençait à devenir un petit peu redondant. Et justement, je viens de te parler du fauteuil. C'est justement on essaye de cadrer le truc vraiment en mode préchauffage, relation, bébé, enfin voilà quoi. Maintenant, on essaie d'y aller un peu plus à l'instinct. Voilà, c'est bon, bah, j'ai envie, et ben bah, j'y vais. Et même s'il est en train de bosser, s'il est en train de faire la vaisselle, s'il est en train de se doucher, ou tu vois, ou même au boulot, par exemple.
Vous essayez, en tout cas, ouais, de vous communiquer sur votre désir, quoi.
Ouais. Bah, pas mal de sextos, genre au boulot, avec bah, les petites photos, etc. Enfin, voilà, on essaie de casser la monotonie autant que possible, en fait.
Comme vous êtes jeune parent d'un bébé de 8 mois, comment s'est passée, justement, cette partie de grossesse et puis le après-accouchement de ta femme? Comment toi, t'as réussi à garder ta place d'homme, d'amant?
Il y a eu aucun problème. Enfin, dans le sens où, elle a eu une grossesse compliquée parce qu'elle a fait un diabète gestationnel en plus.
Aïe.
Tu sais que déjà la grossesse en soi t'es vachement limitée en termes d'aliments, etc. Bah là, pour le coup, avec le diabète, c'était encore plus compliqué. C'est-à-dire que fini la charcuterie, fini les sushis, fini le vin, oh putain, oh le malheur.
Ouais, ça,
ah bah, puis elle qui adore le vin blanc en plus, donc voilà. Donc non, c'était très très compliqué.
Et plus le diabète, du coup, pas du tout de sucre, faire hyper attention tout le temps.
Voilà, c'est ça.
Vérifier
sa
glycémie, ouais.
Ouais, exactement. Donc un régime spartiate. Et non, niveau sexualité, ça a pas changé en fait, pour le coup.
D'accord,
on a gardé quand même.
Toute la grossesse, vous avez eu des rapports sexuels?
Ah oui. Et je dirais même, c'est marrant, mais même un petit peu plus que d'habitude.
Et toi, le corps de ta femme qui porte votre bébé, il te plaît, il t'excite, ça change rien, ça te fait
alors,
peur?
Je dirais pas que ça m'excite. Ça m'excite pas sexuellement, mais au niveau...
Sache qu'un des tags les plus demandés sur YouPorn, c'est quand
c'est
même...
Pregnant, ouais.
Exactement.
Mais non, moi, c'est pas mon... Non, c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement. Non, par contre, les rondeurs que ma femme a toujours eues, oui. Et non, et pour le coup, le fait qu'elle soit enceinte, j'étais même beaucoup plus prévenant.
D'accord.
J'y allais avec un peu moins de... J'y allais avec un peu moins de vigueur, j'y allais beaucoup plus en douceur, tu vois, j'étais vraiment, oui, bon, bah, dans le cocooning, bon, sauf ouais, quand elle demandait ou voilà, mais.
Et après l'accouchement, comment ça s'est passé, le postpartum? Est-ce que vous avez refait l'amour assez vite? Est-ce que.
Non, il y a eu quelques mois, après l'accouchement, il y a quelques mois où tu peux plus rien faire de toute façon.
Parce que t'es crevé déjà, tu dors plus.
Ouais. Puis même elle, en fait, c'est-à-dire que ça l'a tellement épuisée. Et puis bon, tu sors quand même l'équivalent d'un gigot, quoi. On va pas se mentir. voilà. Déjà pour elle, physiquement, elle a douillé. Et même pour toi, c'est pas excitant, en fait.
Qu'est-ce qui est pas excitant?
Je sais pas. C'est le. Enfin, c'est comment dire? Quand t'es habitué, si tu veux, à voir le sexe de ta femme, bon, bah, d'une certaine manière, tu le vois plus du tout pareil après.
Tu as regardé quand ton bébé est sorti?
Non. J'ai une anecdote à ce sujet-là. J'ai une de mes profs, bon, qui nous avait raconté, son accouchement, et son mari avait fait l'énorme connerie de se mettre en face, en fait, pendant l'accouchement. Sauf que elle a eu une déchirure en même temps. C'était une boucherie charcuterie. Il ne l'a pas touché pendant 2 ans.
Ouais.
Il était traumatisé.
Bah, c'est traumatisant parce que déjà quand tu fais pas partie du corps médical, même des petites sutures, des petites choses comme ça, c'est très impressionnant.
Bah puis t'as vite fait à tourner de l'œil. Enfin ça voilà. Dépend des personnes, mais ouais.
Voilà, là c'est le corps de ta femme, c'est une partie très intime.
Ouais.
C'est très très impressionnant. Après ça se faisait beaucoup. Enfin, il y avait une génération où le père n'était pas du tout là pendant l'accouchement et on l'appelait seulement pour l'expulsion parce que c'est ce qui se faisait dans les années 70, les années 80. Ça a eu la vie de beaucoup de vies de couples.
Mais c'est horrible.
Bah ouais. Donc, alors que maintenant, ils font très attention.
Eh ben, messieurs, justement, soutenez vos femmes, soutenez-les. parce qu'elles en ont grand besoin et c'est peut-être un des moments les plus propices justement à l'entraide dans le couple en fait.
Ok, donc vous mettez quelques mois à retrouver une vie sexuelle après l'accouchement.
Ouais.
Là vous êtes un peu dedans, c'est-à-dire que le bébé a 8 mois, vous avez repris une vie sexuelle il y a 6 mois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et comment ça se passe, vous vous retrouvez en tant que jeune parents, comment vous arrivez
On se retrouve, entre mari et femme, en fait.
Est-ce que vous êtes marié récemment?
Oui. Même si ma femme a eu un petit peu de mal, elle a mis peut-être un petit peu plus longtemps que moi là-dessus, je pense, à vraiment arriver à se reconsidérer comme une femme et plus comme une maman.
C'est difficile, ouais.
Bah oui.
T'as vu un changement opéré chez elle?
Oui, enfin... C'est-à-dire qu'elle était déjà très très douce, très très prévenante dans la protection, mais même avec moi. Mais ça s'est amplifié en fois mille. Là, c'est oui.
Tu découvres la mère qu'elle est.
Oui, mais avec bonheur pour le coup.
C'est chouette. Et c'est quoi maintenant un peu votre envie de, enfin votre sexualité à vous deux? Vous tendez vers quoi?
On tend plus vers le jeu. On reste là-dessus, bah voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment pour casser cette image de routine sexuelle, c'est bon, tu tâtonnes un peu, c'est ah bah t'as envie, ah bah moi aussi, bon bah on le fait et puis basta quoi. Non, c'est maintenant on essaye de chauffer un peu plus, même dans des circonstances où genre en extérieur ou par message ou machin, enfin on essaye de dépasser certaines limites qu'on avait jusqu'à présent, en fait.
Ouais, je comprends. Et c'est d'autant plus important quand on est jeune parent et que la vie du bébé, la vie de ce nouveau petit être qui arrive entre vous prend vachement de place.
Il prend beaucoup de place, ouais.
Ça prend beaucoup de place et puis ça redistribue, c'est ce que tu disais, les cartes aussi. Tu découvres, parce que même si tu t'aimes très fort ton ou ta partenaire, tu sais pas ce qu'il vaut en tant que parent, même toi tu ne sais pas ce que tu vaux en tant que parent, et effectivement le découvrir dans son rôle de père ou de mère, c'est quelque chose de particulier.
Ah bah on se découvre, hein, mais on prend plaisir à se découvrir mutuellement en fait, donc ouais.
Et c'est qui le stressé? Parce qu'il y a toujours un parent plus stressé que l'autre.
Bah ça c'est elle du coup.
Toi tu es un peu plus cool, tu relativises un peu plus?
Oh bah moi oui, enfin je suis vraiment un baba cool à côté, hein, mais elle, pour le coup, c'est elle qui a vachement la tête sur les épaules, c'est elle qui prépare le sac à langer, c'est elle qui a...
En tout cas, tant que le partage des tâches est équitable, tout va bien.
Ah oui, bah ça oui.
Tu me disais, Julien, que tu as une particularité qui est la synesthésie. On en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros. Moi, je trouve que c'est intéressant dans ton parcours parce que jusqu'à maintenant, là, tu m'as raconté... quelques-unes de tes rencontres amoureuses, enfin, slash intimes.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai le sentiment que tu as une perception de l'autre qui est assez particulière. On sent chez toi qu'il y a une extrême sensibilité. Tu as parlé beaucoup de « j'ai pas eu le temps, j'ai de place, ça allait trop vite, j'étais pas tout à fait d'accord, je savais pas vraiment si j'avais envie ». Comment tu l'exprimes ta synesthésie aujourd'hui? Parce que tu me disais que c'était des sons, toi.
Oui, alors voilà, c'est. On peut expliquer déjà brièvement ce que c'est que la synesthésie. Tu veux le dire ou pas?
Ah non, mais vas-y, fais-le.
Ah bah ok, d'accord. Et bah ça vous concerne peut-être, du coup, chers auditeurs. Ça concerne à peu près 10% dans le monde. Et 70% des synesthètes sont graphèmes couleurs, c'est-à-dire que vous percevez les chiffres ou les lettres, alors soit en couleur, soit en émotion, soit en texture, soit en odeur, voire même plusieurs choses à la fois. Et non, c'est pas une maladie, c'est juste...
Vous n'êtes pas fou.
Non, du tout. C'est juste une construction neuronale différente, en fait. Et dites-vous qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de mathématiciens qui sont synesthètes.
Et comment ça se... Ça
et
se
moi, calcule. Pour le coup, bah, c'est plus les sons, comme tu l'as dit.
Ça se diagnostique?
Non, bah, il y a... pas de diagnostic à proprement parler en fait, parce
D'accord.
que il y a très très peu d'études en fait, parce
D'accord.
que parce que même les synesthètes eux-mêmes ne savent pas qui ils sont, parce que pour nous c'est la normalité. Enfin, moi si tu veux, j'ai toujours trouvé normal de voir des sons, d'arriver à sentir des textures ou de considérer des sons limite comme des personnes en fait.
Ok, très bien. Et donc, mais dans ton quotidien,
moi, ça m'a paru toujours normal. Ah bah, quand, c'est-à-dire que quand j'écoute un morceau, par exemple, bah il y a tel son qui va sonner bleu. Le bleu, donc le son qui sonne bleu, en règle générale, il a une personnalité plutôt timide. Et mais si ça, je vais dire un truc, mais genre un kick, c'est un son très sec, donc blanc à bord relativement diffus. Voilà, mais t'as des sons pareil dans la musique électronique très très stridents. Eux, ils sont tranchants, mais pour autant, ils peuvent être d'une couleur différente en fonction de leur personnalité.
Donc, quand tu écoutes un morceau de musique,
c'est un peu comme une scène, mais dans la vie de tous les jours où différentes personnes interagissent entre elles en fait. Et moi, je suis juste spectateur de tout ça. Et tu captes toutes les émotions et tu vois les sons interagir entre eux. Et ouais, c'est... Moi, ça me paraît normal, mais il y a plein de gens qui me disent, ouais, ça a l'air vachement cool.
Tu sais si c'est héréditaire?
Je sais pas. Je me suis posé la question. J'ai demandé à des psychiatres. J'ai été poser la question à des psychiatres. Même eux savent pas en fait. Donc ça se pourrait, mais eux pensent plus que c'est dû au fait que je sois né à 5 mois et demi. Oui, oui.
Ah oui, donc t'étais un très très grand préma.
Très grand préma.
Waouh.
Et pour eux, apparemment, ça pourrait venir de là.
Mais c'est incroyable cette histoire, parce que 5 mois et demi, il y a quasiment 30 ans, c'était une...
En 93, en 93, t'avais une chance sur deux d'être handicapé moteur ou handicapé physique.
Bah, c'est ce que j'allais te dire, et puis c'est surtout que je connais...
J'étais réanimé 3 fois, donc oui.
Incroyable. Question un peu cash, mais t'as aucune séquelle?
Non.
Ni respiratoire, ni...
Non. Alors, pour être tout à fait sincère et très très ouvert d'esprit, ça sort de la sexualité, mais il y a une, je sais pas si on peut parler d'expérience de Amy, mais il y a eu une certaine ouverture aussi à ce niveau-là.
Ouais.
Tu dois savoir ce que c'est, du coup, je pense.
Oui, tout à fait.
Voilà, ça et peut-être ma synesthésie, peut-être qu'elle vient de là du coup. Et c'est marrant, ouais. Et tu parlais de la synesthésie, comment ça interagit dans mon quotidien.
Alors, attends, juste le MI, moi je te dis oui, je sais ce que c'est, mais peut-être que les auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est l'expérience de mort imminente.
Ouais, c'est ça.
EMI, voilà.
C'est ça. Et c'est quand t'es en état de mort clinique et que t'es réanimé, en fait.
C'est ça. Donc oui.
Voilà. Et en règle générale, tu reviens toujours avec, tu reviens avec certaines choses. Donc toi, tu as des perceptions, tu perçois des énergies, ou alors t'as des tas de trucs qui peuvent être apparentés à du paranormal, mais qui nous, pour le coup, nous paraissent plutôt normales maintenant, en fait.
Ok. Incroyable. Ok. Donc ceci expliquerait peut-être cela.
Et dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup moins fun parce que ma synesthésie, et ça pour en avoir parlé avec d'autres synesthètes du coup, parce que oui, j'en ai rencontré d'autres, qui eux sont graphés une couleur, et en fait on a les mêmes, j'irai pas les mêmes symptômes, mais il y a un certain détachement, c'est-à-dire que j'ai toujours donné cette image, c'est comme si la vie telle qu'elle est là, en fait, elle est dessinée sur une feuille, et que toi, tu t'es dessiné sur une feuille de papier calque et que tu étais posé dessus.
D'accord, c'est-à-dire que tu te sens pas tout à fait...
C'est-à-dire que tu vois la vie, tu la vois bouger, tu la vois en couleur, etc., mais tu n'es pas capable d'interagir pleinement avec, parce qu'il y a des tas de trucs que tu comprends pas, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a des émotions humaines, par exemple, que je ne peux pas... Je n'arrive pas à déchiffrer. C'est vraiment ça. C'est comme si on m'avait pas codé avec le traducteur, en fait.
Est-ce que tu...
Et j'ai mis du temps à en parler à ma femme, parce que je me suis dit, mais merde, elle risque de mal le prendre. Mais quand elle me dit je t'aime, par exemple, ça ne déclenche rien. Parce que pour moi, c'est rattaché à aucune émotion, en fait. Ce qui est marrant, c'est que quand j'écoute une musique, je suis complètement capable de ressentir ça, mais pas venant d'un être humain.
Et alors, est-ce que par contre, dans l'action, quand ta femme va faire quelque chose qui te fait plaisir, ou qui te fait rire, ou qui te met dans quelque chose de positif, tu arrives à ressentir...
Dans l'action, de quelle action on parle? On parle de sexe, hein, là?
Non, pas forcément, pas forcément dedans. Non,
d'accord,
je parlais dans votre quotidien, quand elle te dit je t'aime, ce sont des mots, mais par exemple, si elle a une action où elle te fait, elle te fait plaisir, elle te donne un cadeau, elle te dit un truc qui te fait marrer, enfin, je sais pas, une interaction d'amoureux, est-ce que là, tu vas ressentir quelque chose pour elle?
Oui, je ressens, y a la taquinerie, ça me fait marrer, mais ça va pas plus profondément que ça, si tu veux.
D'accord.
C'est vraiment comme si, ouais, je sais pas. C'est comme s'il y avait une porte, en fait, et il n'y a pas la clé.
Et tu le vis comment, toi? Tu le vis mal?
Je le vis mal, ouais. Je pense que ça a été un des trucs qui fait que j'ai longtemps fait la psychothérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça, en fait.
Ouais.
Et j'ai toujours pas compris, d'ailleurs.
Bah, en même temps, j'ai l'impression que tu as les réponses à tes questions.
Ouais, mais j'aimerais bien essayer de changer. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se change pas, en fait. Je pense que je vais être comme ça et...
Bah, surtout que ton cerveau est ainsi fait. Enfin, c'est une cartographie. C'est comme
Bah là,
quelqu'un
pour
qui
le
est
coup, oui.
autiste ou quelqu'un qui est
Ouais.
HPI ou quelqu'un qui... Enfin, voilà, tu ne peux pas changer la cartographie de ton cerveau. Donc, et est-ce que ça se... Tu pourrais... Enfin, c'est compliqué de comparer parce que comme tu ne sais pas comment les autres gens vivent ça, mais tu penses que dans la sexualité, ça t'apporte quelque chose de différent?
J'ai une vision différente du corps, peut-être, en règle générale. Donc, bah, je suis beaucoup plus dans la... C'est peut-être ma fibre artistique après ça, mais je suis à la photo de boudoir et la
Tu me
photo...
disais que tu faisais de la photo et que récemment tu t'étais mis à la
Ah
photo
oui, bah
nue.
j'ai mis 3 ans avant de trouver vraiment ce qui me plaisait artistiquement. Et oui, en fait, là, c'est ça, c'est le... Alors, c'est pas du tout par voyeurisme, très loin de là, mais je sais pas, c'est la perception du corps,
Ah, tu m'as envoyé tes photos, enfin quelques-unes de tes photos qui sont très jolies
Merci.
d'ailleurs.
C'est le travail de la lumière, c'est les courbes, c'est comment est-ce que la lingerie aussi met en valeur le corps des femmes, etc. Je sais pas, il y a un truc.
Enfin, tu photographies pas que des femmes, parce que tu m'as envoyé aussi des
Oui,
messieurs.
oui, oui. Alors oui, bah hein, je t'ai envoyé des
J'ai
messieurs.
un monsieur avec une chemise à
Eh ben c'est
carreaux.
moi.
Tu m'as envoyé des photos de
Bah
toi tout
oui,
nu.
parce que c'était pour mon projet Octobre Rose, justement.
Eh bah super. Eh bah
Parce que oui,
écoute.
c'est mon projet. Oui, parce que bah du coup, mes aventures obligent encore une fois. L'éternel poissard. Parce que j'ai eu un cancer des testicules il y a 7 ans. Donc du coup, je me dis bah quitte à militer, autant se mettre à poil et pour dire messieurs, faites attention à vos bourses.
Mais attends, parce que tu passes ça comme ça, mais t'as eu un cancer des testicules à 21 ans.
Oui. Opéré 3 fois. Et toujours
Mais
pas.
ta fertilité n'a pas été endommagée.
Non, alors j'aurais dû faire un spermogramme et mettre ça au frais. Je l'ai pas fait. C'est peut-être mon côté un peu spirituel, mais si la vie m'en donne l'occasion, ça se fera. Et par chance, bah ça l'a fait. Mais il y avait un certain pourcentage, effectivement,
Bah,
de
évidemment.
malchance de stérilité pour le coup.
Bah, bien sûr, évidemment. Et tu dis qu'aujourd'hui, c'est pas encore complètement
Non,
acquis?
bah non, bah c'est ma femme, bah c'est pendant nos ébats, en fait. Je pense qu'elle jette toujours un petit coup d'œil. Hein. Elle m'a dit, ouais, tu devrais aller revoir le médecin parce que il y a une boule qui est en train de réapparaître. C'est pas normal. Et puis au boulot, bon, bah oui, t'as l'impression de te prendre des coups de marteau, quoi. Donc tu comprends très vite que c'est en train de revenir.
Dans les
Ouais.
testicules, ah mince.
Donc non, non.
Et donc c'est quoi? C'était des tumeurs
Ouais,
bénignes que
c'est ça.
t'avais?
C'est ça. Et en fait, le médecin, alors je le dis, mais c'est vraiment à titre de prévention pour le coup, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de messieurs qui pourront faire un peu plus attention, j'espère du moins. Même si votre médecin vous dit ce n'est pas grave, faites gaffe quand même, parce que le mien, pendant des années, il m'a dit non, non, c'est rien, j'avais juste un petit kyste, hein. J'avais juste une petite boule blanche à la base. Il m'a dit non, non, c'est rien, t'inquiète. Et le temps a passé, le temps a passé, le kyste a grossi, le kyste s'est infecté, et résultat, je me suis retrouvé avec un troisième testicule et je n'arrivais plus à marcher parce que bah le moindre
Oh
frottement
là là.
était, t'avais l'impression bah oui bah qu'on t'écrasait les testicules avec un pic à glace, c'était une horreur.
Oh là là,
Au
horrible.
moindre frottement avec du textile, donc moi qui supporte pas porter des baggies, bah par la force des choses j'étais obligé.
Tu
Et
m'étonnes.
puis bah ça saigne abondamment, donc voilà, c'est pas très ragoûtant, mais en même temps voilà, c'est important de le dire.
Faut faire
ouais ouais
attention,
ouais
quoi. Ouais, bien sûr.
et on m'a retiré une tumeur de la taille d'une olive, mine de rien.
Aïe, aïe,
Voilà,
aïe. Ah ouais,
donc
effectivement.
messieurs, faites très attention.
C'est ça, faites très attention. Allez, faut vous faire palper les bourses.
Ah non,
Mais
mais
c'est
ça ils
vrai
peuvent
que
le faire
nous,
eux-mêmes.
là.
C'est-à-dire que sous la douche, ça prend même pas 30 secondes. On devrait dire aux garçons, etc. Il faut aller voir un urologue. Je dis pas d'y aller une fois tous les trimestres, mais allez-y au moins ne serait-ce qu'une fois par an, pour faire un petit check en fait.
Ok, donc bon, bah, tu traverses cet épisode difficile et douloureux. Donc aujourd'hui, quels sont les projets de votre vie intime avec ta femme? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ensemble? Qu'est-ce que vous voulez vous souhaiter par la suite? Comment vous voyez évoluer votre sexualité?
On s'est fait une promesse récemment, là, c'est ça, c'est d'essayer justement de casser cette monotonie qui est en train de s'installer de par la parentalité.
Ouais.
Voilà, donc on s'est dit il faut remédier à ça très vite avant que ça s'installe, parce que sinon on va juste être des parents et on sera plus un couple en fait. Et on n'a pas envie de tomber dans ce travers-là. Donc on va essayer de retrouver le goût du jeu, le goût de l'aventure aussi. Genre là, on part en voyage de noces dans 2 semaines en Savoie, en chalet à la montagne, bon. Et okay. Pareil, on aimerait bien retorter aussi en forêt, etc. Donc,
Ah oui, c'est vrai, toi, le grand air, ton truc, c'est le grand air, la nature.
Mais c'est génial.
Non, mais attends, il en faut pour tous les
mais
goûts.
Mais oui.
Okay. Pas de problème. Tu sais, on en parle beaucoup à ce micro-là, du couple libre ou des clubs libertins ou du polyamour ou enfin, en tout cas des nouvelles alternatives du couple et de la sexualité.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Est-ce que pas du tout? Comment?
Confidence. il y a quelques années, donc avant d'être avec elle, j'avais été voir des prostituées. Voilà.
Ouais. Pourquoi t'es allé voir une prostituée?
Toujours en quête justement de savoir ce qui me correspondait, parce que je restais sur ma faim avec mes expériences passées et je me suis dit j'ai envie de tester en fait. J'ai envie de tester et j'ai envie de voir jusqu'où ma libido, mon corps et mon excitation peut aller.
D'accord.
Bien souvent c'était pas satisfaisant parce que c'était très très mécanique en fait. Mm-hmm. C'était tu payes, tu baisses ton froc, tac tac, t'éjacules et tu repars. Non, oui. ça me convenait pas. Et quelques rares fois c'était très très bon. Et ouais, donc ça c'est des très bonnes expériences. Mais pour le coup, maintenant que je suis marié avec une femme que j'aime, je me rends compte que le sexe, non, sans sentiment, ça me correspond pas.
D'accord.
Donc pas de polyamour, pas de club libertin.
Alors polyamour, au contraire, c'est avec du.
C'est oui, autant pour moi. Mais non, je suis pas. Je sais pas, c'est le j'ai tellement une vision différente des autres en fait que non, ouais. ça me traverse pas l'esprit en fait. Par contre, le nombre de fois où ça m'est arrivé de juste regarder des femmes, mais même des collègues de travail, qui étaient très jolies, mais par contre, il n'y a pas une once de désir ou de sexualité, mais pour le coup, c'était juste un regard vraiment purement photographique. C'est-à-dire qu'elle avait des courbes, elle avait un regard, elle avait un truc, et ouais, et c'est des flashs comme ça, si tu dis merde, cette fille-là, ouais, elle est belle, j'ai juste envie de la prendre en photo, en fait.
Oui, donc c'est un tout autre regard.
Non, mais complètement.
Ok, je comprends. ok, Julien, on va arriver à la fin de l'épisode, j'ai une petite question.
Vas-y.
Avant de te demander le fameux mot de la fin. Quel est l'épisode du podcast, parce que tu me disais que tu écoutais, t'avais écouté pas mal d'épisodes.
Ouais.
Quel est l'épisode qui t'a le plus marqué?
Si, c'est dans le. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était dans le sens où il fallait arrêter de se mettre la pression, en fait.
C'était Anthony. C'est un garçon qui est child free,
ouais.
Qui est normand
oui,
aussi d'ailleurs.
Oui, du coup,
ça.
Oui.
Allez, ok, ouais, c'est Anthony qui disait qu'il fallait arrêter de se mettre la pression.
Et ça, c'est très, très important.
C'est un sacré choix de garçon, c'est Anthony. Ok, merci Julien. Et quel sera le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs, aux auditrices du podcast?
J'ai envie de dire, respectez-vous, aimez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur d'être vous-même, comme dans la vie de tous les jours, comme dans votre sexualité. Parce que c'est votre corps, il vous appartient. Donc, profitez de la vie, en fait, tout simplement.
Moi, je trouve que c'est un super message. Merci beaucoup.
De rien, je t'en prie.
Merci pour votre écoute et merci à Julien pour sa confiance. C'était vraiment un super échange avec Julien. Je suis très contente en tout cas de vous proposer des témoignages toujours aussi variés. N'hésitez pas à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux et évidemment à proposer votre témoignage. Je trouve que c'est toujours très enrichissant d'avoir plein de sujets différents. Donc vraiment, ne soyez pas timide par mail ou sur le site On The Verge Podcast. C'est très facile de proposer votre témoignage. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.